Deuxièmement, son propos ne consiste pas à expliquer des vérités bibliques ou des vérités de la loi qui seraient considérées comme connues, mais à voir comment on peut les vivre dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un livre d'application. Ce n'est pas un livre qui veut expliquer la révélation de Dieu, mais il veut expliquer comment est le monde et comment on peut vivre dans ce monde-là. Voilà, donc voilà pour l'introduction, le contexte du livre. Alors, rentrons dans le contenu lui-même. Donc, Salomon, comme on l'a vu, fait un bilan de sa vie, bilan de la condition de l'homme, finalement. Et sa conclusion est que la vie de l'homme est dérisoire et décevante quand elle est regardée sur un plan humain. Chapitre 1, verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Donc le terme hébreu veut dire « vapeur, buée, vent, ce qui est éphémère, ce qui est illusoire. » Ce terme est repris 38 fois dans l'Ecclésiaste, alors qu'il n'est repris que 35 fois dans le reste de l'Ancien Testament. Donc on est là au cœur du sujet, au niveau de l'Ecclésiaste. On a eu d'autres traductions, « Parole de vie » dit « tout part en fumée »,« rien ne sert à rien »,« rien ne mène à rien ». La Nouvelle Bible Second nous dit « futilité complète, tout n'est que futilité ». À la fin du livre, d'ailleurs, il reprend ce propos, au chapitre 12, versets 14 à 15, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Donc voilà sa conclusion, après avoir tout essayé, tout envisagé, tout réfléchi. On peut résumer ça sous plusieurs idées. D'une part, c'est que la vie n'a pas de sens perceptible à l'être humain, par lui-même. Chateaubriand écrivait « Ô misère de nous !» Notre vie est si vaine qu'elle n'est qu'un reflet de notre mémoire. Ecclésiaste 2, 10 à 11 nous dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » C'est Salomon qui parle, hein, avec tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Donc une idée qu'il n'y a pas de sens profond qu'on arrive à saisir. Deuxième idée qui est reprise, c'est que la vie est répétitive. Donc on a lu cette idée du cycle de la nature qui se refait constamment, le soleil qui se lève, le vent qui tourne, les fleuves qui vont à la mer, de tout ce qui est en mouvement sur la terre mais qui se répète. Et on sait que dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Année après année, on recommence chaque année et il y a un cycle de l'année finalement qui est toujours un petit peu le même. Les choses se répètent, mais finalement, fondamentalement, rien ne change. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne? Voilà la réflexion de Salomon. Autre idée dans cette vanité qui est donnée ici, c'est que la vie est incertaine. L'homme ne sait pas ce qui est devant lui, les aléas des temps, et des circonstances, nous le savons bien, ne nous appartiennent pas. Nous ne savons pas du tout ce qui est devant nous. On sait que rien de ce qu'on bâtit n'est stable et durable, que ce soit une entreprise, une organisation, un bâtiment, même une famille, une église. On sait que ce que l'on conserve, ce que l'on garde, est soumis à l'usure, à la destruction, au vol, même des choses qui paraissent durables. Je pense à tous ces monuments assyriens qui ont été détruits en Irak, qui auraient pu penser qu'ils seraient détruits un jour. Ils étaient là depuis des siècles. Et toutes les valeurs de ce monde ne durent pas. La jeunesse, la beauté, l'ambition, le travail, les projets, les soucis, la sagesse. Et de toute façon, la vie elle-même ne nous appartient pas, puisque la mort est de toute façon notre réalité ultime que nous ne connaissons pas. La vie est donc incertaine. La vie est également injuste et parfois misérable, et l'Ecclésiaste va reprendre ce thème à plusieurs reprises. Ecclésiaste 4, 1 à 3. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Il y a des situations d'injustice, de violence, d'oppression. Il suffit de regarder autour de nous, il ne faut pas chercher bien loin, qui demeurent au cours des siècles, malgré tous les efforts de l'homme pour venir à bout. Et certains sont dans des situations impossibles, très difficiles. Autre constatation, donc la vie est frustrante et pénible. Ecclésiaste 2, 22, que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore une vanité. Voilà, donc on ne va pas poursuivre, parce qu'il y en a beaucoup de thèmes sur cette question-là dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais c'est quand même un constat sans appel, un constat assez terrible de la condition de l'homme. Et je pense que c'est une réalité, évidemment, que nous vivons aussi, en tant qu'humains, en tant que chrétiens aussi, à notre niveau, et qu'il faut affronter en face. C'est pour ça que le livre de l'Ecclésiaste est là. Donc après avoir fait ce constat, l'Ecclésiaste remarque donc l'incapacité de l'homme pour sortir de cette situation tragique. On a vu rien de nouveau sous le soleil. Malgré tout ce qui a pu être fait, mis en œuvre, tous les projets de l'homme, les choses restent fondamentalement en l'état. Ce qui a été, Ecclésiaste 10 à 11, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « voici ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles passés. On ne se souvient plus, voilà, de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alors on pourrait se dire quand même, depuis l'époque de Salomon, combien d'avancées techniques, combien de connaissances nouvelles ont été apportées. Ça paraît un peu raide de dire ça. Mais la condition de l'homme qu'on vient de décrire, cette condition tragique, elle, n'a pas changé depuis ces siècles-là. L'homme a amélioré son travail, son confort, son organisation, mais ces problèmes-là restent de façon fondamentale. Et on sait d'ailleurs que les innovations humaines présentent toujours une face positive et une face négative. La révolution industrielle au XIXe siècle a donné l'exploitation des ouvriers. La généralisation de l'automobile, la consommation d'énergie, les problèmes de pollution, l'énergie nucléaire, la bombe atomique, Internet, les nouvelles technologies d'information nous met devant une masse d'informations ingérables, nous prend beaucoup de temps dans des activités virtuelles qui n'ont pas toujours un grand intérêt, et nous met dans un risque de manipulation qui est plus important aujourd'hui. Donc on voit que l'homme innove, crée, parce que Dieu lui a donné cette capacité, mais ce qu'il crée a toujours de toute façon un certain nombre de défauts, et ensuite ça ne change pas la condition humaine fondamentale. Voilà, donc c'est le constat qui est fait donc par Salomon, donc sous différentes formes tout au long du livre. Alors Salomon, on a vu, a essayé la sagesse, a essayé de comprendre les choses. Ecclésiaste 1, 17 à 18, il nous dit « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Et on voit que, de toute façon, ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. Dans un commentaire sur ce livre de Romerovski, il dit « Le Qohelet veut dire qu'il y a beaucoup de choses tordues qui ne peuvent être redressées, énormément de manques qui ne peuvent être comblés. La sagesse s'avère alors inutile, puisqu'elle laisse impuissante devant ce qui va de travers et ces manques qui subsistent. Le sage les constate sans pouvoir y remédier. » Et c'est vrai qu'on est, assailli d'études très bien, très intéressantes, qui font des constats, mais la plupart du temps sans véritable solution. Salomon a essayé aussi le plaisir, la jouissance. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle ? Florent Varac, dans un autre commentaire sur l'Ecclésiaste, dit « Nous voulons anesthésier le côté insensé de la vie, nous voulons fuir la réalité de la mort, nous voulons meubler l'espace et le temps de la vanité par des vanités plus vaines que les autres. » Et donc cette tentative-là, c'est, je dirais, c'est un peu celle qu'on a dans ce monde de consommation, où on essaie de remplir notre vie de tout un tas de choses, de biens matériels, d'activités, de toutes sortes, pour essayer de remplir. Certains ont dit que la société de consommation tend à devenir une société de consolation. Donc on est dans cette approche-là. Salomon a essayé également le travail, l'activisme. Il dit « J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Il évoque également la fuite dans une forme de religiosité extérieure qui n'apporte rien. Il dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. » Donc il y a cette idée d'un culte qui était purement formel et qui n'apportait rien, si ce n'est essayer de remplir justement ce vide lié à cette condition humaine tragique qu'on a décrite au départ. Donc je pense qu'il faut prendre acte de cette condition humaine telle qu'elle est. On sait qu'elle trouve son origine dans le péché originel. La condition humaine a été gâchée par le péché depuis la chute. La mort est entrée dans le monde et l'insatisfaction, le manque de plénitude qu'on vient de décrire sous ces différentes formes. On sait donc quel est le point d'origine. Et c'est une réalité, je pense, acceptée dans notre vie. La Bible est un livre réaliste qui parle de l'homme tel qu'il est. Et en tant que chrétien, on partage cette réalité du côté dérisoire et frustrant que peut contenir notre vie. Mais évidemment, il ne s'agit pas d'en rester là. Sinon, ça serait effectivement décourageant, pessimiste, comme on peut ressentir le livre de l'Ecclésiaste en première lecture. Mais je pense que, voilà, l'Ecclésiaste nous donne ce contexte-là. Évidemment, il faut rechercher le chemin du bonheur et de l'espérance au cœur de notre condition humaine. Et ce chemin serait totalement barré, sans espoir, si Dieu n'était pas là. Mais sa présence change radicalement les choses. Et on aborde donc la deuxième partie. Deuxième passage dans Ecclésiaste 3, 9 à 15. qui nous donne les clés de la compréhension. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? On revient à cette question lancinante qui revient tout au long du livre. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Donc deux perspectives nouvelles changent totalement la situation. Dieu seul est souverain. Et notre condition humaine, avec toutes ses limites, est sous le contrôle absolu de Dieu, et tout dépend de lui. Cette condition dans laquelle nous nous trouvons, c'est Dieu qui l'a établie. Deuxième idée, c'est que Dieu nous aime et qu'il a de bons projets pour nous, malgré la condition dans laquelle nous nous trouvons. Alors tout d'abord, la souveraineté de Dieu sur notre condition humaine dérisoire. Donc premièrement, Dieu est à l'origine de notre condition humaine. Ecclésiaste 3, 14 à 15, donc j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ce que Dieu fait durera toujours, par opposition à ce que fait l'homme, qui, comme on l'a vu, est illusoire et éphémère. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Ce que Dieu fait dans ce monde, dans notre vie, par contre, est parfait. Dieu ramène ce qui est passé, c'est-à-dire que le cycle inlassable de la nature et de la vie humaine sont l'œuvre de Dieu lui-même. Ecclésiaste 3,11 nous dit « Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » On comprend que l'homme ne saisit pas le sens de sa vie, il ne saisit que quelques bribes de ce que Dieu est en train de faire. Nous ne voyons pas le tableau dans son ensemble. Nous voyons des petits morceaux dans notre vie. Mais l'œuvre de Dieu se fait et s'accomplit. Dieu maintient les choses ainsi afin qu'on le craigne, qu'on prenne conscience de la souveraineté de Dieu, finalement, et de l'inutilité de tous nos efforts pour essayer par nous-mêmes de sortir de cette condition dans laquelle nous nous trouvons. Cette tension dans laquelle nous sommes a pour but de craindre Dieu et de voir que la solution est en lui uniquement. On peut noter aussi que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme est créé pour l'éternité. La mort est donc quelque chose de scandaleux, de contre-nature, d'inacceptable dans notre vie, parce que la pensée de l'éternité est en nous. Et donc c'est auprès de Dieu que la solution est trouvée, puisque c'est lui qui accomplit son œuvre, qui accomplit les œuvres de son royaume. Alors, sachant cette donnée fondamentale, oui, la condition humaine est dérisoire et décevante, oui, tout est vanité, mais la condition dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. la condition dans laquelle je me trouve participe à l'œuvre de Dieu, même si je ne le vois pas, même si je ne le comprends pas, même si mon sentiment profond est différent. Et donc, cette constatation nous invite à agir sous le regard de Dieu et non pas de nous-mêmes. Dieu a mis cette situation pour qu'on le craigne, pour qu'on revoie nos priorités, qu'on recentre notre regard. Il nous est dit donc de marcher avec Dieu en voyant les bonnes choses que Dieu nous donne. Ecclésiaste 3,11, il fait toutes choses belles en son temps. Donc l'homme doit marcher avec cette vision des choses qui nous appelle à agir avec Dieu, à ne pas tomber dans le pessimisme, justement, mais à agir avec Dieu. Ecclésiaste 11, 1 à 6 nous dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Autrement dit, on ne sait pas devant nous ce qui va arriver, effectivement. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Mais même si on ne sait pas, il faut agir dans les œuvres que Dieu met devant nous. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout et que tu ne vois pas ou ne comprends pas nécessairement. Alors dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Ce constat de la condition humaine nous appelle au contraire à agir en ayant la confiance que c'est Dieu qui connaît la finalité. Ce constat nous appelle à marcher dans l'obéissance à ce que Dieu demande, à rentrer dans les œuvres qu'il a pour nous. L'œuvre de Dieu, c'est son affaire à lui. Nous participons au royaume, même si nous ne le voyons pas. Et j'ai en mémoire la parabole du grain qui croît de lui-même. On peut reprendre d'ailleurs dans Marc, chapitre 4, verset 26. « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence à terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. » La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc nous sommes appelés à avoir la confiance que Dieu construit son œuvre, construit son royaume, au-delà de nos incompréhensions. Donc première chose, un appel à agir pour Dieu. On appelle à repenser nos priorités en ne les centrant sur ce que Dieu attend et sur les autres, et non pas sur nous-mêmes. C'est ce qu'a fait Salomon, il a réfléchi par rapport à ce qu'il voulait faire, à sa satisfaction, et on voit qu'il arrive à une conclusion qui est assez négative. Deuxièmement, ce constat nous appelle à jouir aussi pleinement des bienfaits que Dieu nous accorde dans cette vie, dans cette condition humaine marquée par le péché, Dieu nous accorde des grâces et des bénédictions. Ecclésiaste 3, 12 à 13, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste 9, 7 à 10. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est une espèce d'art de vivre qui est proposé au milieu de cette vie de vanité, comme il est dit. Il s'agit de vivre pleinement les bénédictions que Dieu nous accorde. Il s'agit de les reconnaître, de les voir et d'être reconnaissant envers Dieu. L'Ecclésiaste n'est pas un livre pessimiste ou morose, il appelle au contraire à vivre, à se réjouir, manger, boire, se réjouir avec des amis, dans la confiance, la reconnaissance envers Dieu. Il faut savoir se réjouir des choses simples que Dieu met dans nos vies, dans chacun de nous. Malgré nos difficultés, il y a des choses, des bénédictions que Dieu nous accorde, il faut les reconnaître. Et donc il n'y a pas de place pour l'ascétisme dans cette vision. Il faut profiter des occasions que Dieu nous donne de nous réjouir. C.S. Lewis, dans un commentaire, nous dit « La doctrine chrétienne de la souffrance est claire, je crois, un fait très curieux du monde dans lequel nous vivons. Le bonheur et la sécurité établis auxquels nous aspirons tous. Dieu nous en prive. En ayant rendu le monde tel qu'il est, en sa nature même. Mais il y a semé de la joie, du plaisir, de la gaieté à la volée. Nous ne sommes jamais à l'abri, mais nous avons beaucoup d'amusement et parfois de l'extase. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La sécurité à laquelle nous aspirons conduirait notre cœur à se reposer sur les choses de ce monde. Et il constituerait un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques moments d'amour heureux, un beau paysage, une symphonie, une rencontre plaisante avec nos amis, un bon bain ou un match de football n'ont pas cette tendance. Notre Père nous offre au cours de notre voyage de quoi nous rafraîchir dans des auberges plaisantes, mais il ne nous encourage pas à prendre ces auberges pour la maison. Voilà, je trouve qu'il résume bien l'état d'esprit de l'Ecclésiaste. Alors, on peut réfléchir sur Salomon lui-même, le grand roi d'Israël, image un petit peu image du Messie, roi d'Israël, et le comparer avec le Messie, proprement dit, avec Jésus lui-même, en se souvenant que Jésus a quitté sa gloire, a renoncé à sa gloire, pour prendre notre condition humaine, qu'il a partagée, avec toutes ses limites. Et donc, il peut nous accompagner aussi dans cette condition que nous connaissons aujourd'hui. On voit que Jésus, lui, il a renoncé à la réussite humaine, à la célébrité, au pouvoir, à la richesse, à toutes ces choses que le roi Salomon a essayées. Mais son seul objectif a été d'accomplir la volonté de son Père. Il a vécu pour les autres, jusqu'à donner sa vie sur la croix. Il ne s'est pas centré sur sa condition à lui, vue de lui-même. Et on sait que Salomon, malgré sa sagesse extraordinaire, s'est détourné de Dieu à la fin de sa vie et a servi les idoles. Je pense qu'il y a là un contraste qui est évidemment important et qui nous montre finalement le chemin à suivre de rentrer dans les œuvres que Dieu nous donne, ne pas chercher des œuvres extraordinaires, c'est au milieu du quotidien de notre condition que Dieu agit au travers de tous les actes de tous les jours. Mais Dieu nous donne aussi des bénédictions dont nous avons besoin aussi, jour après jour, dans la dépendance avec lui. En conclusion, pour revenir sur la fête de Soukhot, On peut dire qu'il y a également une image. Les cabanes représentaient la vie précaire dans le désert, lieu de chaleur accablante, d'aridité, d'épreuve. Et ça peut être une image un peu de notre condition humaine rendue misérable par le péché. Notre soif n'est pas étanchée, notre activité est souvent improductive, la souffrance et le malheur peuvent nous toucher, la mort clôture inexorablement notre passage sur terre. Pourtant, comme Israël dans le désert, Dieu vient à notre rencontre et prend soin de nous au sein de notre condition. Au sein de notre vie de vanité, il nous accorde des bénédictions et prend soin de nous. Il manifeste sa grâce qui constitue les prémices de son royaume à venir. Et je crois qu'à Soukhot, c'était ça qu'on célébrait justement en lisant ce texte rappelait la vanité, le côté très, très instable de la vie. Et vous savez qu'à l'époque, l'agriculture était particulièrement soumise à tout un tas d'aléas. On rentrait la récolte, on lisait ce texte et on se rappelait qu'on dépendait de Dieu et de Dieu seul, et non pas de nos capacités à nous. Lire l'Ecclésiaste consiste à se souvenir à Soukhot que les vendanges et la moisson récoltée constituent un don et un bienfait de Dieu au milieu de la fragilité. L'Ecclésiaste appelle donc à l'espérance, à la joie, en étant pleinement conscient des limites de notre existence humaine. Le royaume de Dieu s'est approché de nous au cœur de notre condition humaine. Nous sommes donc appelés à marcher avec Dieu dans une attitude de confiance, de reconnaissance et d'obéissance. Et je conclurai en lisant Romains 8, les versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, l'homme et la création, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Thank you.